notre désespoir dans la vie et la célébration de la Pâque comme commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Le désespoir dans la vie et la célébration de la Pâque comme commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Si vous examinez bien ce thème, vous allez vous rendre compte qu'il soulève un questionnement. Il pose une question, et c'est la question de savoir comment, en tant que bons disciples, nous devons célébrer la Pâque comme commémoration de la résurrection de Jésus-Christ, cette puissance de Dieu qui nous rend capables d'être toujours à l'écoute du ressuscité, à l'écoute de l'ami et compagnon fidèle qui est toujours présent sur notre route, jalonné de beaucoup de tristesse et de désespoir. Notre célébration devrait être différente parce que vous allez vous souvenir que la célébration de la Pâque chez les Juifs était la commémoration. Les jours où les Juifs se souviennent qu'en Égypte, les jours où Dieu a frappé les premiers-nés des morts des Égyptiens, il a demandé aux enfants d'Israël d'appliquer le sang de l'agneau pascal sur les linteaux des portes pour que le sang leur serve de signe et que les signes permettent à Dieu de passer par-dessus la maison sur la porte de laquelle était appliqué le sang et que les malheurs, les jugements ne puissent pas atteindre ceux-là qui sont dans cette maison. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque, nous ne la célébrons plus comme cela. Nous devons la célébrer comme une commémoration de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est cette résurrection-là qui est la puissance de Dieu, qui nous rend capables d'être toujours à l'écoute du ressuscité. Le ressuscité qui se veut être un ami et un partenaire fidèle, un compagnon fidèle, toujours présent, que nous en soyons conscients ou non. Il est toujours présent avec nous sur notre route, bien que cette route soit toujours jalonnée de beaucoup de tristesse qui nous plonge dans les désespoirs. Et cette question est l'angle sous lequel nous allons aborder ce thème pour essayer de donner la réponse aux attentes des uns et des autres. Mais je pense que pour y arriver, il faut que nous puissions d'abord comprendre ce que signifient deux concepts clés. Il y a la Pâque, il y a aussi le disciple. Dans la CBK, nous sommes dans une année de quoi? De discipolat, c'est-à-dire qu'à chaque moment durant cette année, et même durant notre vie, nous devrions nous rappeler les éléments qui définissent un disciple et en particulier un bon disciple. Alors, la Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est l'une des trois grandes fêtes qui se célébraient dans le judaïsme. Et si vous lisez Jean chapitre 11, verset 55, il dit « Lorsque la Pâque des Juifs était arrivée ». Plusieurs fois que cela est cité dans les évangiles pour dire qu'au moment de cette fête-là, beaucoup de Juifs sont montés à Jérusalem et Jésus est monté à Jérusalem aussi avec ses disciples. Et pendant cette fête, je venais de les rappeler, tous les Juifs devaient célébrer la Pâque. Ils devraient immoler un agneau pour avoir le sang à appliquer sur les linteaux de la maison. Et la Bible, si vous lisez dans Exode chapitre 12, versets 12 à 14, et le verset 25 à 27, la Bible dit que lorsque Dieu avait sauvé les enfants d'Israël par les signes du sang, le sang qui était appliqué sur les linteaux des maisons, qui a permis que Dieu, en identifiant les signes du sang, il puisse faire passer les jugements par-dessus la maison sur la porte de laquelle était appliqué le sang. Alors Dieu avait dit, vous avez été sauvés par ces signes-là. Je vous demande de retenir cela comme quelque chose que vous allez célébrer chaque année. Et vous allez répéter le même geste. Et quand les enfants vous poseront la question, qu'est-ce que cela signifie? Vous allez chaque fois leur dire, nous nous souvenons du jour où nous étions menacés de la mort du premier-né de chaque famille. Que ce soit le premier-né humain ou animal, il fallait que le premier-né puisse mourir parce que Dieu avait décidé d'exterminer tout premier-né sur toute l'étendue du territoire égyptien. Alors Dieu nous a demandé, pour être sauvés, d'appliquer le sang de l'agneau que nous avons immolé à l'intérieur de la maison sur le linteau de la porte, pour que les destructeurs, lorsqu'ils passent la nuit, quand ils voient le sang, ils deviennent incapables de tuer. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Il est désarmé et il n'a plus le pouvoir de tuer, d'introduire la mort dans cette maison. Ça, c'était la Pâque dans l'Ancien Testament, tel que les Juifs les vivaient, tel que les Juifs l'expérimentaient et les célébraient. Et c'est aussi cette Pâque que Jésus a célébrée avec les disciples, les jours où il fut arrêté. Mais cette fois-ci, c'était pour qu'il puisse imprimer une nouvelle signification à cette Pâque, à la Pâque. Parce qu'en fait, cette signification intervient dans la révélation qu'il a faite du fait que ce ne sont plus les agneaux, les brebis, animaux qui doivent être immolés, qui doivent continuer à être immolés pour sauver les Juifs. Mais il vient remplacer les brebis, les agneaux, par lui-même qui est l'agneau de Dieu, qui fait quoi? Qui ôte les péchés du monde. C'est là que commence la nouvelle signification. Il remplace les agneaux, animaux, par lui-même. Il remplace plusieurs agneaux par un seul agneau avec un article défini. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde en versant son sang pour que ce sang puisse laver quiconque croit et que celui-ci puisse avoir les signes qui permettra qu'il lui soit évité les jugements éternels. C'est ainsi que Jésus, après avoir été arrêté ce jour-là, il a été amené le lendemain au lieu du supplice, il a été crucifié, il a versé son sang, il est mort, il a été enseveli, et le troisième jour, il est ressuscité des morts. C'est comme ça que la Bible, les Écritures l'appellent. Les ressuscités. Il est ressuscité.
Il est vivant.
Qui?
Jésus.
Il est vivant. Les anges ont amené le message qu'il n'est plus à chercher parmi les morts parce qu'il est vivant. Il est ressuscité comme les prophètes l'avaient prédit, mais comme aussi lui-même l'avait déjà dit. Mais alors, en quoi la résurrection de Jésus-Christ donne-t-elle une nouvelle signification à la Pâque? Nous allons faire une petite comparaison entre cette Pâque qui a été célébrée avant la mort de Jésus-Christ et la Pâque que Jésus a célébrée et a inaugurée à partir du moment où il est mort et ressuscité. Tenez bien, la première chose, c'est que dans l'ancienne Pâque, la Pâque juive, elle était célébrée avec combien de brebis? Combien d'agneaux? Beaucoup, parce que chaque famille devrait immoler un agneau. Autant de familles, autant d'agneaux immolés. Amen.
Amen.
Mais la Pâque de Jésus-Christ, quand elle intervient, elle est immolée avec un seul agneau. L'agneau que donne Dieu, Jésus-Christ lui-même. Deuxième élément, la brebis de l'agneau de la Pâque juive a versé le sang pour sauver le premier-né de chaque famille, dans chaque famille. Tenez bien, le premier-né, alors que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, a versé son sang pour sauver, comment? L'humanité entière. Et là, il faut noter une nuance. Pour la Pâque juive, afin d'être sauvé, il suffisait d'être à l'intérieur de la maison dont la porte porte, je ne sais pas si vous saisissez, dont le linteau de la porte a la marque du sang, les signes du sang. Que vous croyez ou non, vous êtes sauvé par le fait d'être à l'intérieur. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui a appliqué le sang sur le linteau, le fait que vous soyez à l'intérieur vous donne le privilège d'être sauvé. Amen.
Amen.
Mais le sang de Jésus-Christ n'accorde jamais un salut par procuration. Chacun doit exercer sa foi pour accepter ce sang. Que ce sang soit appliqué sur ma vie pour que les signes de ce sang y restent. Et c'est cela qui servira de signe
qui fera que au jour du jugement, moi je sois sauvé, est quelqu'un qui n'a pas réalisé cet acte de foi qu'il ait vécu avec des chrétiens ou non, il soit comment condamné. Ça veut dire que dans l'ancien temps, avec l'ancienne Pâque, le fait de naître dans une famille croyante pouvait aider quelqu'un à être sauvé. N'est-ce pas? Parce que ce jour-là, nous sommes dans une famille croyante, le papa a cru, il a appliqué le sang, vous êtes à l'intérieur, vous êtes sauvé par l'acte du papa, l'acte de foi du papa. Mais ici, avec le sang de Jésus-Christ, il n'y a aucun acte qui peut accorder le salut par procuration. La procuration, c'est ce que vous écrivez, vous dites, je suis tel, j'ai mon argent, tu gardes mon argent, j'envoie tel pour que vous puissiez lui donner autant de l'argent que tu gardes. C'est ça la procuration. Le père ne peut pas écrire une procuration à Dieu pour dire, comme j'écris, sauve ma fille, sauve mon fils, parce qu'il vient de moi. Cette procuration n'existe et n'existera jamais. Troisième fait. L'agneau de la Pâque juive a été mangé à l'intérieur de la maison. Le lendemain, je crois, avant le voyage, les résidus de cet agneau se sont retrouvés dans les lieux d'aisance. Et ces agneaux-là, aucun de ces agneaux, aucune de ces brebis n'est jamais, revenu à la vie, ressuscité. Mais Jésus a été immolé. Il a versé son sang à la croix. Il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et c'est cette résurrection qui est par la puissance de Dieu qui donne toute sa valeur et toute son importance au sang que Jésus a versé pour ton salut, pour mon salut. C'est ce qui fait que le sang de Jésus-Christ puisse avoir la force de te sauver. Puisse être le signe que le Seigneur, le seul signe que le Seigneur considérera à son retour pour dire, toi, tu es sauvé. Je t'évite la condamnation éternelle, entre dans le royaume. Le fait de manquer ces signes-là me vouera ou te vouera à la condamnation éternelle, parce que lorsque le Seigneur cherche le sang qui sert de signe pour vous éviter la condamnation éternelle, il n'a pas vu ces signes-là. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de toi à ce moment? Est-ce que tu portes déjà les signes du sang de la croix qui te servira de signe ces jours-là, les jours du jugement, les jours de la condamnation éternelle? Est-ce que tu peux te souvenir d'un jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ? C'est lui qui est mort à la croix de Golgotha. Tu l'as accepté de venir dans ta vie. Tu lui as demandé de te laver par son sang pour que les signes du sang restent, de te pardonner tes péchés, de transformer ta vie afin que tu commences à vivre en nouveauté de vie comme enfant de Dieu et que tu proclames avec tout le sang que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Passées. Et toutes choses sont devenues comment? Es-tu déjà une nouvelle créature? Parce que c'est le signe du sang qui a lavé, qui m'a lavé de tous mes péchés, qui a transformé ma vie, qui m'a pardonné tous mes péchés. C'est le signe de ce sang qui transforme ma vie, qui me fait vivre en nouveauté de vie et qui me fait accepter dans les royaumes comme enfant de Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et sont eux qui croient au nom du Fils de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, comment? N'endurcissez pas. Deuxième concept, le disciple. Le mot disciple vient du latin qui signifie un élève qui écoute et reçoit les enseignements d'un maître. Un élève qui marche à la suite d'un maître. Il n'y a pas de disciple s'il n'y a pas de maître. Il n'y a pas de maître s'il n'y a pas de disciple. Amen. Alors, le disciple, c'est celui qui se comporte comme un élève qui marche à la suite de son maître il écoute les enseignements, il les reçoit, il adhère réellement à la doctrine du maître et à sa manière d'être, en se conformant à ses prescriptions, à ses préceptes, avec l'objectif de devenir comme le maître. Amen. Amen. Nous sommes des disciples lorsque la suite de Jésus est notre préoccupation de chaque jour. Lorsque la marche derrière Jésus comme maître est notre préoccupation. Nous l'écoutons. Écoutez-moi bien. Les parents qui sont ici, est-ce que vous comprenez quand on dit cet enfant écoute? Et quand on dit cet enfant n'écoute pas? Vous voyez la différence? Vous connaissez la différence?
Oui.
Ce n'est pas que c'est l'enfant qu'on dit qu'il n'écoute pas, on ne lui parle pas. Ce n'est pas qu'il n'a pas des oreilles. Il a des oreilles, il peut entendre, mais les parents examinent et il dit, il a entendu, mais il n'écoute pas. Hasidia. Amen. Les disciples, c'est celui qui écoute les maîtres. C'est celui qui reçoit les enseignements. C'est celui qui adhère au prescrit et à la manière d'être du maître. C'est celui qui veut harmoniser sa vie avec les prescrits du maître, avec un seul objectif, de devenir comme le maître. Amen. Amen.
Amen.
Il a existé une tradition qui dit que pour qu'un disciple soit confirmé, qualifié disciple, ce n'est pas le jour où il commence à suivre le maître qu'il est qualifié. Vous me suivez? Ce n'est pas le jour où il est entré dans ce jeu de la suite du maître qu'il est qualifié disciple. Mais il faut qu'il réussisse au test. Et quel était ce test? Vous savez, le Moyen-Orient, c'est dans la grande partie un désert. Et le maître enseignait en marchant dans le désert. Quand il marche, il était devant et les disciples étaient comment? Derrière. Alors le test c'était comment? Les jours où tous les disciples à la suite du maître réussiront à marcher en mettant les pieds dans la trace du pied du maître laissé dans le sable derrière lui. De manière à ce que l'observateur, quand il examine, il dit, il n'y a qu'une seule personne qui est passée par ici. C'est à ce moment-là que les disciples qui ont réussi à ce test ont dit, il prend maintenant le titre de comment? Des disciples. Vous avez suivi? Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Jésus a prié. Et la Bible nous dit que avant tôt le matin, avant quoi? Avant le matin. Je ne sais pas. Je crois Marc 1:35. Il s'élevait avant que le jour n'arrive, il s'élevait pour aller prier. Qu'en est-il de nous par rapport à la prière? Est-ce que nous marchons sur les traces, dans les pas de Jésus par rapport à la prière? Par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Il suffisait que Jésus prenne la Bible de ce moment-là, il ouvre un passage, il dit et il lit et il explique. Qu'en est-il de nous? Même quand la Bible n'était pas là, le diable arrive et dit, vous vous souvenez d'une parole du diable? Laquelle par exemple? Si tu es le fils de Dieu, transforme le pain en pierre, n'est-ce pas? Transforme le pain en pierre, n'est-ce pas? Transforme ces pierres en pain. Et Jésus a dit, il est comment? Il est écrit. Il a dit trois fois. Il est écrit. Il était familier à la parole de Dieu, de telle manière que cette parole, il s'en est servi comme une arme pour vaincre le diable. Amen. Amen.
Amen.
Qu'en est-il de nous? Ça veut dire qu'il avait assez de temps avec la parole de Dieu. Il priait. Il y a un frère qui a dit, si vous voulez observer la prière comme Jésus l'a priée, il faut prendre comme principe du lit au genou. C'est-à-dire, vous tombez du lit, immédiatement vous allez à genoux et vous prononcez quelque chose devant Dieu dans la prière. Ça va vous aider à avoir gagné ce temps matinal. Même si vous allez avoir un autre temps de prière après, mais vous aurez fait ce que Jésus faisait. Il s'élevait du lit et il tombait à genoux pour dire quelque chose à Dieu, pour prier avant que la journée n'apparaisse. Amen. Il avait toujours du temps avec la parole de Dieu. C'est ainsi que la parole de Dieu était devenue trop familière à lui. Il ne pouvait pas réfléchir, chercher midi à 14 heures pour répondre au diable. Amen. Amen. Nous devons prendre des stratégies pour marcher sur les traces de Jésus-Christ. Par rapport au témoignage, Jésus profitait de toutes les occasions pour parler du royaume Comment?
Du royaume des cieux.
Du royaume de Dieu. Il saisissait toutes les occasions. C'est comme ça que vous le suivez, il parle en parabole, tantôt il parle ouvertement. Si vous voyez, si vous pouvez savoir compter les paraboles de Jésus, ça, ce sont des occasions qu'il a saisies pour présenter le royaume de Dieu. Nous, on saisit combien de fois les occasions de parler de notre Seigneur du règne. Et la Bible arrive jusqu'à dire tout ce que Jésus a fait et dit. Si on pouvait écrire, le monde ne pouvait pas contenir quoi? Des livres. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. La communion fraternelle. Jésus l'a vécu. Il a trouvé ceux qui avaient faim, il leur a donné à manger. Il a trouvé des malades à Kawachukulia. Il a donné la guérison. Qu'en est-il de nous? Alors, allons vers la chute en disant ceci. Le texte nous a rappelé deux disciples qui ont marché les jours de la résurrection de Jésus-Christ après la Pâque juive. Ils venaient de Jérusalem pour Emmaüs. Et la Bible nous dit que, chemin faisant, ils étaient en train de parler de ce qui est arrivé, ce qui les a plongés dans la tristesse, qui les a plongés par la suite dans le désespoir. Et Jésus se joint et dit, vous discutez de quoi? Et on lui tient une parole très dure. Tu es le seul à avoir séjourné ici à Jérusalem et qui ne sait pas ce qui s'est passé. C'est une parole amicale? C'est amical? Il dit, mais c'est quoi? Il dit ce qui est arrivé à Jésus, qui était un prophète puissant en parole et en œuvre. Et nous espérions que c'est lui qui allait sauver Israël de l'esclavage, de l'oppression. Mais on l'a livré, on l'a tué. Ça fait le troisième jour. Ils ont exprimé leur désarroi, leur désespoir. Et Jésus a dit, ne fallait-il pas qu'il meure, qu'il souffre, ce qu'il a prédit lui-même. Il a commencé à leur donner des explications. À partir de la loi de Moïse, passant par les prophètes, jusqu'à traverser toutes les écritures en train de leur expliquer ce qui concerne Jésus, qui était pourtant avec eux, mais qu'ils ne pouvaient pas reconnaître. La Bible dit que Jésus fait semblant de passer lorsqu'ils sont arrivés à Emmaüs et ils changent de nature et ils disent quand même si nous lui avons tenu une parole dure, on ne va pas les laisser aller tomber entre les mains des bandits, des brigands. Est-ce que tu peux rester avec nous parce qu'il fait tard et la route n'est pas sécurisée? Ça, ce sont les termes que je prête à la Bible. Alors il dit, allons-y. Il rentre dans la maison. Au moment de manger, il rompt les pains, il bénit et c'est à ce moment-là que les yeux s'ouvrent et ils reconnaissent c'est Jésus et immédiatement il disparaît de devant eux. Cette découverte leur donne la possibilité de poser des actions qu'ils ne pouvaient pas poser avant que cette découverte n'arrive. Amen. Ils se mettent debout, alors qu'ils ont dit, si tu vas tomber entre les mains des brigands. Eux, ils ont fait quoi? Ils sont restés? Ils sont partis avec tout le courage, sans plus penser aux brigands. Ils sont retournés et ils ont donné le message que Jésus est ressuscité. Retenons quelque chose de ce texte. La première chose, c'est laquelle? Les disciples d'Emmaüs, retenez une chose, et c'est important. Quand il faisait bon temps, ils ont été des bons disciples. Quand il a fait mauvais temps, ils ont été. Vous ne voulez pas parler. Il y a quelqu'un qui a dit, un homme de Dieu a observé l'église. Il a observé la vie, comment elle se vit dans l'église. Et il a constaté que les fidèles de l'église sont, quand il y a bon temps, ils sont des bons disciples. Quand il y a mauvais temps, ils deviennent des mauvais disciples. Et sa conclusion, c'était bon temps, bon disciple, mauvais temps, mauvais disciple. On peut répéter ça ensemble? Bon temps, bon disciple. Bon temps, bon disciple. Mauvais temps, mauvais disciple. Ah, les autres ne veulent pas dire ça. Est-ce que ce n'est pas ce que nous constatons aussi? Ceux qui ont expérimenté l'œuvre de la croix, avec le sang de Jésus-Christ, il leur est demandé d'être des bons disciples tant dans les bons temps que dans les mauvais temps. Amen.
Amen.
Parce que Jésus est avec nous, que nous le sachions ou non, il est avec nous à tout temps et partout. Que nous soyons dans les bons, que nous soyons dans les mauvais, il est avec nous. Nous devrions prendre connaissance, prendre conscience de cela. Peut-être qu'il se rend compte que vous êtes dans un mauvais temps, il fait route avec vous. Il se joint à vous dans la marche et il ne voit que des lamentations. Il ne voit que la tristesse. Il ne voit que de ça ne va pas. Alors que vous vous réclamez chrétien. Nous devons changer. Nous devons demander la grâce des changements pour dire, Seigneur, aide-moi pour que je demeure chrétien, aussi bien dans les bons temps que dans les mauvais temps, dans les temps de turbulence. Il y a des chrétiens qui connaissent leurs mauvais temps. Lorsqu'ils viennent du chômage et qu'ils trouvent de l'emploi, les mauvais temps commencent. Vous savez pourquoi? Là, ils ne voyaient pas l'argent. Quand ils commencent à voir l'argent, les mauvais temps commencent. Nous ne devons pas être comme ça si nous avons expérimenté le salut par le sang du ressuscité. Que ce soit dans les bons ou les mauvais temps, nous devons toujours être à son écoute et être son disciple qui fait ce qu'il nous demande. Pendant les temps de maladie, les mauvais temps peuvent commencer. Pendant le deuil, les mauvais temps peuvent commencer. Les mauvais temps peuvent commencer dans plusieurs circonstances. Il est question de rester éveillé et de dire « Qui suis-je ?» De marcher toujours avec son identité, de savoir que si j'ai demandé à Jésus-Christ de me laver par son sang, le sang me servira de quoi? De quoi?
De
signes toujours et partout. Et je ne dois pas perdre cette identité, qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est à cela qu'on nous appelle en tant que disciples de Jésus-Christ. Ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu nous parle pour nous faire savoir que nous sommes dans notre voyage, dans la marche derrière les ressuscités, dont nous ne devons pas perdre vue. Nous devons être à son écoute à tout moment et partout. Nous devons savoir que nous avons une identité que nous ne devons pas perdre et dont nous ne devons pas perdre de vue. Si j'ai reçu Jésus dans ma vie, qu'il m'ait lavé par son sang, qu'il ait transformé ma vie en pardonnant mes péchés, en faisant de moi une nouvelle créature. C'est le sang de Jésus qui est cette force qui fera que je puisse survivre et que ma foi ne puisse pas griller, puisse survivre aussi bien dans les bons temps que dans les mauvais temps. Que le Seigneur bénisse sa parole.